Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à l'écoute d'RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris.
Bonjour Monseigneur.
Bonjour Madame.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Vous représentiez mercredi matin l'archevêque de Paris à la cérémonie des Invalides en hommage à Arnaud Beltrame. C'est un héros national au même titre que Jeanne d'Arc ou les grands résistants qui prenaient eux aussi des risques inouïs pour défendre une cause, un pays. C'est ce qu'a dit entre autres Emmanuel Macron, c'est la bonne comparaison.
En tout cas, c'est un acte, l'acte qu'il a posé est un acte impressionnant qui nous interroge tous, parce que tous on se demande, est-ce que moi j'aurais les ressources intérieures pour faire un choix pareil, c'est-à-dire risquer de mourir pour permettre à quelqu'un d'autre, que je ne connais pas d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas, de vivre, et ça au nom de son métier, de son devoir de gendarme, de protéger ses concitoyens. Donc il y a quelque chose d'admirable.
Au nom de sa foi, parce que c'est vrai, vous avez raison, tout le monde se pose la question, mais son épouse a précisé qu'il était d'une certaine façon autant gendarme que pratiquant, que c'était indissociable pour lui.
Ah mais je pense que c'était un chrétien gendarme, et donc c'est en tant que gendarme, oui, se nourrissant de sa foi chrétienne, qu'il a pu imaginer sans doute un tel acte et croire que la vie de cette femme valait bien la sienne.
Donc sa foi peut l'avoir aidé à prendre cette décision.
Ben je suppose, oui.
Ouais.
Nous vivons de l'exemple du Christ qui donne sa vie pour que les autres vivent. Donc on peut supposer que ça a pu compter dans sa manière de décider.
Et vous le dites, évidemment, comparaison n'a rien à voir, mais on est aujourd'hui, on rappelle, le Vendredi Saint, le jour de la crucifixion de Jésus selon les évangiles. L'Église catholique demande le sacrifice. Est-ce que pour l'Église catholique, le plus grand acte religieux, c'est d'aller vers la mort ?
Non, le plus grand acte religieux, c'est de se mettre au service des autres pour servir plus de vie. Alors, quelquefois, ça peut supposer d'accepter de mourir, mais je ne dirais pas que l'on choisit la mort. D'ailleurs, je pense que...
L'islam radical, par exemple, demande le martyr, exalte ce sacrifice-là.
Mais comme tout nihilisme, c'est ça qui est dramatique dans le nihilisme, c'est que quelqu'un croit qu'en semant la mort, non pas seulement en mourant lui-même, mais en semant la mort, il va susciter un mieux. Alors que c'est tout le contraire, évidemment, c'est en servant la vie des autres, et parfois il faut le faire au détriment de sa propre vie.
Alors, le nom d'Arnaud Beltrame restera sans doute dans les mémoires.
J'espère.
Celui du terroriste, peut-être, très vite, va être oublié. D'ailleurs, sa mère, ici même, sur RTL, nous disait lundi matin, il ne faut pas citer son nom. J'ai pour lui, non pas de la haine, mais le plus grand mépris. C'est une réponse appropriée ?
La mère de qui de...
La mère d'Arnaud Beltrame. Elle disait, il faut même pas citer le nom du terroriste.
Ben on peut le citer ou ne pas le citer. De toute façon, maintenant, il a été cité. Ouais. Je sais pas si j'espère qu'on n'entretiendra pas sa mémoire, pardon. Mais ce qu'il faut, c'est regarder ce phénomène du terrorisme et surtout ce qui le nourrit, le terreau qui le nourrit. Ça, il faut que l'on soit attentif.
Et vous répondez quoi ?
Socialement, nous travaillons à multiplier les liens avec toute une partie de la jeunesse qui se laisse ainsi séduire.
Mais vous y allez ? Vous allez à la rencontre de cette jeunesse ?
Ben nous avons, comme catholiques, ou comme église catholique, nous avons une certaine présence dans les cités, nous avons dans ce genre de cités, nous avons certaines... Elle est faible, était quelquefois en voie d'affaiblissement, mais il y a des initiatives importantes, intéressantes, dans un certain nombre de lieux où des jeunes catholiques vont organiser des activités diverses et variées, aller à la rencontre de ces populations. Alors, c'est évidemment ponctuel, c'est peu de choses.
Et comment ça se passe, Monseigneur, quand vous allez... Est-ce que vous avez des exemples et comment ça se passe quand vous allez...
Vous avez, par exemple, dans la région parisienne, vous avez un certain exemple intéressant, je crois, à Bondy. Enfin, pas je crois, un bel exemple à Bondy. Vous en avez d'autres autour de Marseille. Il y a plusieurs endroits quand même où il y a des choses. Et puis, il y a quand même des lieux où il y a des paroisses qui ont une partie de gens qui habitent dans des cités, qui sont au contact de ces populations. Depuis quelques années, on constate un durcissement, quelquefois dans des relations, dans les immeubles, dans les cités.
Ah bah oui.
Donc les choses sont... Il y a eu des indicateurs depuis un certain temps de ce durcissement. Et là, il faut une action certainement concertée pour essayer d'aider cette jeunesse, de la rencontrer suffisamment tôt, dès l'école primaire, et de travailler pour que les jeunes aient autre chose dans l'esprit et cherchent l'accomplissement de leur vie ailleurs que dans cet islamisme dévoyé.
Mais c'est important ce que vous dites, parce que alors, l'Église se déploie sans doute sur le terrain, elle est active, on le voit d'ailleurs sur le sujet des migrants aussi, mais cela dit, elle semble aussi s'effacer. Elle ne prend plus la parole comme avant, Monseigneur. Où sont les Lustiger, les De Courtrai, les Di Falco qui étaient dans le débat sur tous les fronts, qui semblaient donner des repères à une certaine époque?
Je crois qu'au moment, par exemple, du mariage pour tous, le cardinal 23 a pris la parole un certain nombre de fois, et ça a été plutôt relayé, apprécié ou pas apprécié. Au moment de l'assassinat du père Hamel, le cardinal 23 a aussi pris la parole. Monseigneur Lebrun et l'archevêque de Rouen avaient parlé. Et je pense qu'ils ont dit l'un et l'autre des choses assez fortes qui ont été fortement relayées. Après, aujourd'hui, nous sommes dans un monde différent.
Il n'y a pas que le mariage pour tous.
Les médias sont largement exposés.
Il y a des fractures énormes dans la société française. Et sur ces autres sujets que le mariage pour tous, où là, effectivement,
sur toutes ces fractures, je rappelle que l'année dernière, au moment, en amont des élections, de l'élection présidentielle, nous avions, les Évêques de France avaient publié un document qui était très salué par la presse, y compris d'ailleurs par des journaux dont on ne serait pas attendu à des compliments. Et voilà, et ce document disait un certain nombre de choses sur la nécessité du dialogue dans notre société française gravement fracturée.
Alors vous en parlez justement de l'élection. Oui, un an plus tôt, effectivement, un an avant l'élection. Mais dans l'entre-deux-tours, Monseigneur, l'Église n'a pas pris position. Elle n'a pas donné de consigne. Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient face à face, elle a semblé les renvoyer dos à dos.
Non, nous avions fait le choix longtemps à l'avance, au moins un an avant les élections, de ne pas prendre de position entre les deux tours, ni d'ailleurs, à proprement parler, avant le premier tour. Nous n'avons pas donné de consigne de vote, parce que nous considérons que ce n'est pas notre rôle. Nous avons essayé de nourrir la réflexion de nos concitoyens.
Ce n'était pas une façon d'éviter d'avoir à choisir alors qu'il y a des dissensions internes.
Ils ont pris la décision un an à l'avance, oui, avant qu'on ne sache quel aurait été le résultat des élections. Parce que nous croyons, et personnellement je crois très fortement, à la responsabilité, à la capacité de responsabilité de nos citoyens français. Ce n'est pas en essayant de les terroriser, en leur disant tel personnage est spécialement dangereux. Ils le savent très bien, ils entendent assez de choses. Et nous avions fourni longtemps à l'avance toutes sortes d'éléments pour cela.
Je voulais vous
pour
citer ceux qui veulent bien nous écouter. Vous citez un livre d'Henri Tinck, chez Grasset, La grande peur des catholiques de France. Henri Tinck qui a été longtemps le spécialiste des religions
au monde.
Il rappelle que pendant longtemps, plus on était catholique, moins on votait FN en France. Et il dénonce, il ne va pas par le dos de la cuillère, comme on dit, la lâcheté des évêques de France dans ce contexte électoral qui a choisi la neutralité alors que le contexte était pour le moins pas banal.
Alors, je n'ai pas pu en parler avec Henri Tinck, je ne sais pas qu'il écrivait cela. Si je le rencontrais, j'essaierais de discuter avec lui sur cette question de la lâcheté. Je ne crois pas que ce soit une question de lâcheté. Nous, précisément, pendant longtemps, et c'est toujours un peu le cas, plus on est catholique, plus on est pratiquant, moins on vote Front National. Par conséquent, c'est une question...
4 catholiques sur 10 ont voté pour Marine Le Pen, la dernière élection, alors qu'elle est ultra laïque, contre l'immigration, etc.
Donc ceci indique bien le mal de notre société, le malaise dans laquelle elle se trouve, malaise qu'il faut que les politiques puissent entendre, et les élections servent aussi à cela. Mais ce qui compte, ce n'est pas que les évêques au dernier moment disent aux gens ne votez pas pour ceci ou ne votez pas pour cela.
Mais la question
c'est
derrière,
quels sont les ressorts profonds qui font que quelqu'un va voter.
Oui, mais derrière aussi, vous ne pouvez pas l'esquiver, est-ce qu'il n'y a pas une dérive droitière de l'Église? On le voit. Encore un petit mot. La popularité du pape François a reculé de 12 points en 5 ans auprès des catholiques pratiquants en France à cause de ces ouvertures sur l'homosexualité et les divorcés. Ça ne vous frappe pas? Est-ce qu'il n'y a pas un repli, une crispation des pratiquants sur des valeurs conservatrices?
Les pratiquants, je ne crois pas qu'ils se revisent sur des valeurs conservatrices. Nous sommes, par certains côtés, nous sommes habités par des valeurs profondes, fortes. Les catholiques les portent, et en particulier les catholiques pratiquants. La façon dont le pape François est perçu dépend beaucoup aussi de l'écho qui est donné par les médias. Il y a une espèce d'agacement autour de cet écho.
C'est la cause des médias ?
Non, ce n'est pas longtemps. La faute des médias, d'autant que quand on dit médias aujourd'hui, on ne parle pas forcément uniquement des radios, mais on parle aussi de tout ce qui circule sur Internet et sur de tous ceux qui agitent les réseaux sociaux, où il y a toutes sortes de groupes qui s'ingénient à troubler les esprits, à compliquer les choses, à déformer les propos.
Un tout petit mot pour finir, Monseigneur, ce matin. C'est le Vendredi Saint, on l'a dit. Une polémique a éclaté à Rome. Le pape a déclaré l'enfer n'existe pas. Bon, il est pourtant dans tous les catéchismes. Le Vatican, d'ailleurs, a dit non, il n'a pas dit ce qu'il a dit. Les propos du pape ont été déformés. L'enfer existe ou pas ?
L'enfer, c'est la possibilité pour nous de refuser Dieu. Donc, il existe. L'homme a la possibilité
l'enfer,
de refuser,
c'est là où les âmes
de servir, qui... de servir Dieu, la possibilité de le servir jusqu'au bout. Après, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a personne en enfer et Dieu agit pour qu'il n'y ait personne. Mais cette possibilité ouverte à notre liberté, elle existe. Notre vie humaine porte un enjeu grave, un enjeu éternel.
Voilà, chacun est renvoyé à sa propre conscience, peut-être en enfer s'il ne croit jamais, s'il ne s'est pas repenti.
C'est pas seulement de croire, c'est d'accepter d'être sauvé.
Ou qu'il n'accepte pas d'être sauvé. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été ce matin sur RTL.
Merci à vous, et bonne fête de Pâques.
Et l'intégralité de cet entretien est retrouvée sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.